franceinter.fr.
Il s'appelle Bird Lab, c'est un jeu mobile de sciences participatives développé par le Muséum National d'Histoire Naturelle et la LPO. Et c'est sa quatrième saison qui commence dans une semaine. Voilà ces petits oiseaux pour vous accueillir sur Bird Lab, donc qui vous permet de découvrir les oiseaux de votre jardin et en même temps de faire progresser la connaissance à leur sujet en partageant quelques graines de tournesol avec eux et des données avec les chercheurs. Et on découvre cette appli avec notre invité, Axel Villard.
Oui Mathieu, on reçoit Grégoire Louis au téléphone. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur adjoint de Viginature au Muséum National d'Histoire Naturelle et co-créateur de Bird Lab. Alors comment ça se passe une partie? Déjà j'imagine qu'il faut des oiseaux, des vrais, sous la main.
Oui tout à fait, c'est un jeu concret, c'est un jeu de terrain et donc il faut observer des oiseaux à la mangeoire.
Donc il faut quoi? Il faut les attirer dans son jardin?
Il faut disposer deux mangeoires égales, entre 1 et 2 mètres. Donc pour les gens qui nourrissent le jardin, c'est très simple. Hein. Des mangeoires plateaux, des mangeoires boules de graisse. Mmh. Il faut décrire ces mangeoires et les alimenter strictement avec des graines de tournesol.
Et ensuite, on télécharge l'application.
Ensuite, on télécharge l'application sur Android ou sur iPhone et on démarre une partie quand on commence à observer un premier oiseau arriver sur une des mangeoires. Le déroulé de la partie, c'est qu'en fait, par l'interface tactile, on va faire du glissé-déplacé et reproduire en temps réel pendant 5 minutes les interactions des oiseaux à la mangeoire.
5 minutes, c'est obligatoire. Il faut avoir 5 minutes devant soi.
Il faut avoir 5 minutes devant soi, une partie dure 5 minutes.
Grégoire Louis, vous êtes très malin parce qu'avec le muséum et la LPO, vous êtes dit, bah, tiens, on va amuser le public et puis en même temps, on va pouvoir faire de la science à tout le monde, c'est ça?
Ouais, tout à fait. C'est aussi avec AgroParisTech, hein. C'est une initiative de deux chercheurs d'AgroParisTech. Et on s'est dit qu'en fait, alors c'est souvent le bénéfice des sciences participatives. On fait participer les gens, on les fait observer la nature, on les reconnecte à la nature. Et par ailleurs, on récupère des données qui sont à très très large échelle, hein, tout le pays, sur de grandes quantités d'intervenants et dans une grande diversité de conditions.
Mais il faut connaître les oiseaux quand même, parce que pour pouvoir les différencier, il faut déjà les reconnaître.
Alors, tout à fait, il faut les reconnaître. On parle ici de quelques espèces, on est de 5 à 10 espèces par partie, hein. C'est très rare de dépasser les 10 espèces. Et du coup, on a intégré un quiz qui permet aux gens de s'entraîner,
d'accord,
a priori, et de progresser dans le jeu, c'est-à-dire d'atteindre divers niveaux.
Alors, qu'est-ce qui vous intéresse, vous, dans les parties de Bird Lab que vous recevez sur vos serveurs?
Eh bien, en fait, il y a plusieurs questions sous-jacentes. Il y a des questions sur comment interagissent les différentes espèces d'oiseaux à la mangeoire. Est-ce qu'il y a compétition strictement pour une ressource qui est limitée, ou est-ce qu'il y a coopération, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des espèces qui utilisent le signal d'autres espèces pour se dire tiens, il y a ici de la ressource. Ça, c'est un premier questionnement de base assez général. Et ensuite, il y a d'autres questionnements sous-jacents et puis probablement des questionnements qu'on va découvrir au fur et à mesure de l'accroissement du jeu de données. Mais le questionnement sous-jacent typique, c'est de voir quelle est l'influence du paysage alentour sur le comportement des oiseaux à la mangeoire, c'est-à-dire dans le cas où finalement ils ont une ressource qui leur est offerte et qui leur est volontairement rendue disponible.
Mais alors là, c'est la quatrième saison qui va commencer donc dans une semaine. Vous avez déjà des éléments de réponse à ces questions, j'imagine, non?
Alors effectivement, on a déjà des éléments de réponse et comme souvent en sciences participatives, en fait, les premiers éléments de réponse qu'on a confirme qu'on recueille bien un jeu de données qui est assez conforme à la réalité. Donc en général, en sciences participatives, le premier jeu de données nous permet de voir qu'on a bien des comportements tels qu'attendus. Donc par exemple, on regarde la grégarité des espèces à la mangeoire, c'est-à-dire leur potentiel agrégateur ou non, qui est très variable selon les espèces, et il est parfaitement cohérent avec ce qu'on observe. On observe par exemple que le rouge-gorge est systématiquement tout seul, plutôt en dessous de la mangeoire, de temps en temps il monte dessus un petit peu, alors qu'il y a des oiseaux comme les chardonnerets qui sont toujours en groupe. Donc ça permet de confirmer que tout ça marche. On a effectivement 18 000 parties de 5 minutes qui ont été faites, et on voit qu'on a effectivement des différences entre les mangeoires en milieu urbain et périurbain et les mangeoires en milieu rural. Cette année, par exemple, on fait entrer la perruche à collier.
Ah, mais bienvenue à elle.
Voilà, bienvenue à elle, exactement, la perruche à collier dans le jeu. Il était possible déjà par le passé de déclarer qu'on avait une espèce qui ne faisait pas partie du jeu d'espèces proposées, en mettant un joker et en l'identifiant a posteriori. Mais la perruche à collier, d'abord, elle pose des questions de recherche assez intéressantes parce que finalement, elle est nouvelle venue. Comment elle s'insère dans ce réseau d'interactions, dans ce réseau d'espèces, dans ce tissu d'espèces? Quelles sont les interactions qu'elle développe en fonction du... Apparemment, par exemple, elle vient moins à la mangeoire lorsque les mangeoires sont situées près de parcs urbains. Comme si, en quelque sorte, ou en tout cas c'est une hypothèse, une explication possible, elle trouvait des ressources dans le parc urbain qui lui permettaient de se passer un petit peu cette abondance de tournesol.
Alors, est-ce que vous avez aussi des données, est-ce que vous faites des études sur les utilisateurs de l'application?
Alors, on n'en fait pas encore sur BirdLab, mais on a beaucoup d'autres programmes de sciences participatives, et effectivement, il y a une partie du laboratoire qui s'intéresse aux interactions entre l'homme et la nature, et finalement, les participants au programme de sciences participatives sont des candidats presque spontanés pour essayer d'observer comment, par exemple, l'engagement dans les sciences participatives peut participer à la reconnexion à la nature. On sait qu'on a une perte de connexion à la nature au cours du XXe siècle qui a été assez forte, hein. Et du coup, on essaie de voir comment des nouveaux venus, des gens qui découvrent ce type d'activité, peut éventuellement participer de leur reconnexion à la nature.
Grégoire Louis, on a une question de notre invité sociologue François de Singly, passionné par la perruche à collier, j'en suis sûr.
Non, mais c'était j'ai peut-être pas tout bien compris, mais il y a quand même presque un invariant dans le jeu. C'est-à-dire, il faut quand même aimer le tournesol.
Tout à fait. Alors, effectivement.
Et ça vous oblige à éliminer des oiseaux, cette contrainte du jeu unique?
Alors, il y a plusieurs choses qui éliminent de fait des oiseaux. C'est le fait que ce soit des mangeoires en hauteur, ça élimine de fait l'accenteur mouchet qui va vraiment dédaigner monter, ou de manière très très rare alors qu'il est très fréquent au sol. Et effectivement, il y a cette standardisation. Alors, le principe de ces jeux des sciences participatives, c'est de standardiser la donnée. Si on intègre trop de variations de mise en œuvre des protocoles, on n'arrive plus à analyser les données. Donc là, on a standardisé. Il se trouve que le tournesol est nourrissant, largement accepté par les oiseaux et surtout très utilisé dans le nourrissage des oiseaux de manière, tous les hivers, en général, dans les rayons de vente de nourriture pour oiseaux, on trouve essentiellement du tournesol ou des produits à base de tournesol.
Il y a un autre invariant, c'est qu'il faut être capable de construire deux mangeoires plates identiques et les mettre dans son jardin.
Voilà, alors il y a plusieurs contraintes. Il faut disposer aussi d'une plateforme internet tactile, un téléphone, une tablette. Et effectivement, il faut disposer de deux mangeoires identiques. Alors les mangeoires plateaux, c'est simplement deux petites planches de bois de la taille d'un A4, hein, sur laquelle on verse une quantité égale de tournesol, l'équivalent d'un verre à moutarde, de chaque côté. Et effectivement, soit on les suspend, soit on les place sur des poteaux. C'est assez populaire et ça se déploie notamment dans les établissements scolaires.
Vous avez des joueurs dans toute la France. Il y a une région qui est championne de BirdLab.
Alors il y a une région qui se détache. Alors il y a évidemment c'est très stratifié avec la population humaine, c'est-à-dire que là où il y a beaucoup d'habitants, il y a plus de joueurs, mais il y a notamment par exemple la région des Hauts-de-France, dans lesquelles le Conservatoire des espaces naturels investit pas mal sur l'animation en sciences participatives. Donc il y a comme ça des régions
championnes. Alors, voilà, il reste une semaine aux autres régions pour installer l'application puis construire la mangeoire. Est-ce que vous avez un conseil ou un message à donner à ceux qui vont installer l'application après nous avoir écoutés?
Alors, le conseil, c'est le conseil qu'on donne pour les sciences participatives, c'est faites-vous plaisir. Découvrez la nature, observez, émerveillez-vous.
Et soyez vous-même, François de Singly.
Voilà.
Oui, mais dans une logique expérimentale, c'est un des problèmes.
Pourquoi?
Ah ben parce que c'est le problème, la logique personnelle est en conflit absolu avec le problème de la standardisation. C'est une des grandes tensions dans le monde social aussi. Puisque en même temps, et progressivement, où il y a eu la production de masse, on pourrait dire donc des produits de standardisés, en même temps, chacun est convaincu qu'il doit parvenir à être lui-même. Ouais. Comment devenir soi-même dans une logique, mais c'est
absolument
la même chose à l'hôpital, je demande à être bien soigné, donc suivant des standards très définis, et puis en sortant de l'hôpital, si ça va pas bien, je vais quand même voir une médecine parallèle qui va me permettre de me reconstruire et me déstandardiser.
Allez Axel, pour terminer.
Oui, Grégoire Louis, est-ce que les mangeoires créent des standards chez les oiseaux aussi alors?
Alors les mangeoires, on n'arrive pas à voir encore si ça crée des standards chez les oiseaux, à part une étude très récente en Angleterre qui est assez étonnante. Par contre, effectivement, il y a des standards qui se créent chez les participants. Ah. Alors, la possibilité qu'on laisse pour que les participants puissent exprimer leur singularité, c'est le fait de commenter leur partie à la fin de la partie. Et là, on a des choses assez intéressantes. Et puis sinon, c'est le fait, la mise en pratique de ce protocole qui est très standardisé. Finalement, on voit qu'il y a des variations fortes selon les individus. Et on essaie d'intégrer cet effet dit observateur dans les analyses.
L'application, comment s'appelle-t-elle exactement? C'est BirdLab, tout ça?
BirdLab, voilà. Ouais. BIRDLAB.
Et on la trouve en lien sur le site de la Tête au Carré.
Et c'est sur toutes les plateformes mobiles.
Merci beaucoup Grégoire Louis pour cette quatrième saison qui démarre donc la semaine prochaine. Merci à vous et Axel, à demain.
Merci, à demain, au revoir.
Allez, en bref. Dans le reste de l'actualité scientifique, les femmes portant un stérilet ont moins de chances de développer un cancer du col de l'utérus que celles qui n'en portent pas. C'est une statistique étonnante qui nous vient de Californie en étudiant les données de plus de 12 000 femmes à travers le monde. Les chercheurs montrent que l'usage du dispositif intra-utérin réduit de presque un tiers les risques de développer la maladie. Bien qu'ils ne parviennent pas à expliquer précisément pourquoi, les chercheurs suggèrent que la présence du petit objet stimule le système immunitaire en continu et permet ainsi de mieux combattre les infections récentes. Responsable du cancer. Chez les abeilles, ce sont les petites qui sont les plus efficaces quand on s'intéresse à la sexualité des plantes. Ce sont souvent aux pollinisateurs qu'il faut justement s'intéresser. Des chercheurs texans montrent cette semaine que les petites abeilles sauvages sont celles qui parcourent les plus grandes distances par rapport à leur taille et qui participent le plus efficacement à la dissémination des espèces et à la reproduction des arbres rares. Elles sont capables, ces petites abeilles, de faire s'accoupler des spécimens d'arbres éloignés de plusieurs kilomètres de distance et donc de favoriser le brassage génétique. Et puis les paléanthropologues n'aiment pas les crocodiles. Une étude parue cette semaine montre que les crocodiles en rongeant les os de leur proie laissent des traces de dents qui ressemblent à s'y méprendre aux traces de découpe que l'on attribue à l'homme dans le registre fossile. Une découverte importante et un problème de taille car par le passé, plusieurs études ont attesté de la présence des hommes modernes ou même d'australopithèques à certains endroits du globe grâce à ces traces de découpe. Des études donc qu'il faudra reprendre car il s'agissait peut-être de traces de dents de crocodiles.